Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Auditeurs et auditrices, bonsoir, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Indonésie, Jakarta, les informations. Les titres. Le PNUD est engagé à soutenir la gestion forestière en Indonésie. L'Indonésie d'être un modèle pour les pays islamiques dans l'autonomisation des femmes. L'Indonésie est préoccupée de l'essai de missiles dans le sous-marin de la République populaire démocratique de Corée. Et voici les informations complètes. Le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, est engagé à soutenir le gouvernement indonésien dans l'amélioration de la gestion des forêts dans le pays. Cela a été transmis par le chef de PNUD en Indonésie, Christophe Baoué, en marche du lancement des résultats d'évaluation de la gouvernance forestière 2015 mardi à Jakarta. Selon lui, le PNUD collabore avec le gouvernement indonésien dans de nombreux domaines, y compris dans l'analyse des problèmes de gouvernance forestière et d'autres questions liées au changement climatique.
And I think probably I can think about, you know, six areas where UNDP is very actively engaged.
Nous impliquons dans six domaines où PNUD est très activement engagé. Le premier, l'analyse que nous présentons. Ce type d'analyse que nous allons continuer à le faire sur la gouvernance forestière et tous les problèmes liés au changement climatique. Le second est le dialogue. Les politiques et les procédures sont très importantes. Le PNUD est un conseiller politique. La recherche que nous faisons est non seulement pour documenter ou produire le rapport, il doit être traduit dans la politique. Le quatrième est le renforcement des institutions. Nous croyons que cette institution est l'épine dorsale de traduire les engagements dans la réalité. Le chef de PNUD en Indonésie, Christophe Baoué, encourage les efforts de coordination entre les organismes gouvernementaux pour répondre aux préoccupations environnementales et la gouvernance forestière. En ce qui concerne les efforts d'application de la loi contre les violations de la gouvernance forestière, le PNUD a encouragé le gouvernement indonésien d'adopter une politique multiporte comme une nouvelle stratégie dans le traitement des cas des crimes forestiers en utilisant quelques législations qui sont les plus susceptibles à appliquer. L'Indonésie d'être un modèle pour les pays islamiques, le ministère de la Condition féminine et protection de l'enfance possède la fonction principale d'impliquer des femmes dans les aspects de développement. La ministre de la Condition féminine et protection de l'enfance, Madame Yohana Susana Yembise, dans le débat public intitulé « Les femmes et l'innovation », mardi 26 avril à Jakarta, a déclaré qu'à ce moment, de nombreuses femmes ont des rôles et occupent le siège de la direction à la fois au niveau ministériel, législatif, exécutif et éducatif. La ministre Yohana avait dit qu'il était une indication que la situation des femmes en Indonésie était plus avancée. L'Indonésie a été nommée pour en être un modèle pour d'autres pays, notamment l'État islamique.
Sudah ditunjuk sebagai
l'Indonésie a été désignée comme un modèle pour les autres pays. Hillary Clinton, comme par exemple candidat à la présidentielle américaine, a dit aux ambassadeurs, entre autres l'ambassadeur en Afghanistan, à prendre de l'Indonésie. Parce que les femmes en Indonésie déjà avancées aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Afghanistan est venu en Indonésie et assez choqué et a déclaré que l'Indonésie pouvait être un modèle pour d'autres pays musulmans dans le monde. Selon la ministre Yohana Susana Yembise, la désignation de l'Indonésie d'être un modèle parce que l'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde, avec une grande tolérance où les femmes et les enfants sont devenus partie intégrante du développement national. Les femmes en Indonésie ont aussi la liberté d'exprimer tout ce qui est positif pour le progrès de la nation. En septembre 2015, à l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-président indonésien Yusuf Kalla a exprimé son soutien à l'égalité de genre. C'est la preuve de l'engagement du gouvernement dans la réalisation de la participation des femmes dans le développement. Le gouvernement indonésien a exprimé sa préoccupation sur l'essai de missiles d'un sous-marin mené par la République populaire démocratique de Corée le 23 avril 2016, qui a créé des tensions à la fois dans la région et dans le monde. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué mardi que l'action était contraire à l'esprit de l'accord global de libre nucléaire. En outre, il est une violation des obligations de la République populaire démocratique de Corée aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 1718 2006 et numéro 1874 de 2009 et numéro 2087 de 2013. À cette situation, l'Indonésie a exhorté la République populaire démocratique de Corée de s'abstenir de tout l'acte de provocation qui peut affecter la situation et la stabilité. L'Indonésie a appelé les parties concernées à poursuivre les pourparlers de 6 pays pour maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de la Voix d'Indonésie à Jakarta. L'Indonésie et la République populaire de Chine ont tenu un dialogue mardi à Beijing pour discuter de la coopération dans le domaine de la politique, juridique et de la sécurité, ainsi que son impact sur la région. Comme cité par Antara mardi, dans le 5e dialogue, la délégation indonésienne a été dirigée par le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Panjaitan, et la délégation chinoise dirigée par un membre du Conseil d'État, Yang Jiechi. La coopération dans le domaine politique, juridique et sécurité entre l'Indonésie et la Chine se déroule bien et plus solide. Dans le domaine juridique, les deux pays ont effectué beaucoup de coopération dans le traitement de la criminalité transnationale comme le trafic de drogue et la cybercriminalité, tandis que dans le domaine de la défense, l'Indonésie et la Chine ont une plus large coopération comme l'échange d'élèves officiers, la formation conjointe, le transfert technologique, le dialogue entre l'armée de terre et la marine. Le vice-recteur de l'Université de Queensland en Australie, Peter Ho, a exprimé sa volonté d'aider l'Institut indonésien des sciences, l'IPI, à renforcer des recherches liées au développement des régions éloignées dans les petites îles, y compris l'île de Dambon et Lombok, et de la résilience des villes de Jakarta, Surabaya et Semarang. On souhaite que la coopération des recherches puisse améliorer la qualité des ressources humaines et des connaissances de la communauté, a déclaré le chef de l'IPI, Iskandar Zulkarnain, et le vice-recteur de l'Université de Queensland en Australie, Peter Ho, dans une conférence de presse conjointe à l'IPI mardi. Le chef de l'IPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré que la coopération a été faite parce que l'IPI et l'Université de Queensland ont la même mission dans la science et l'innovation pour le développement. Notre dernière information pour aujourd'hui, la demande de poissons congelés de la province de Sulawesi du Nord des États-Unis est assez élevée. La livraison est faite maintenant presque tous les mois. Le chef de l'industrie et du commerce de la province de Sulawesi du Nord, Jenny Karau Amanado, a déclaré mardi qu'à la fin de mars 2016, la province, a exporté du poisson congelé aux États-Unis jusqu'à 18,5 7 tonnes et peut générer des revenus pour le pays, atteignant 174 000 dollars américains. Selon Jenny Carao, la plus grande demande de poissons congelés en provenance des pays américains et européens. L'intérêt des pays européens et américains pour les poissons congelés de Sulawesi du Nord sont très élevés et cela doit être bien profité par les exportateurs et les pêcheurs. Le gouvernement, selon Jenny, va faciliter pour que la demande d'exportation de poissons de cette province puisse augmenter et de trouver de nouveaux marchés. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec le commentaire et un beau titre, l'Arabie Saoudite sans pétrole. Le pétrole deviendra l'histoire pour l'économie de l'Arabie Saoudite. En 2020, l'Arabie Saoudite va laisser sa dépendance au pétrole comme son plus grand contributeur économique. La vision d'État 2030 étant conçue par le Conseil des affaires économiques et de développement dirigé par le prince, s'efforce de se libérer du pétrole comme soutien économique de l'Arabie Saoudite. Après la séance du Conseil le lundi dernier, le prince Mohammed bin Salman, le dirigeant du Conseil étant aussi député prince héritier, a dit à la télévision Al Arabiya que jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite dépend au pétrole et ceci est dangereux et entrave le développement. La vision 2030 est discutée par les dirigeants de l'Arabie Saoudite après avoir vu que ces derniers temps, le prix du pétrole a continué de chuter jusqu'à 30 dollars américains par baril à la fin de l'an 2015. Le résultat des recettes du pétrole fait l'économie de Saoudite s'écouer et souffrir le déficit jusqu'à 87 milliards de dollars américains. Le décembre, le gouvernement de Riyad faisait la réforme dans le palais après la chute des prix du pétrole. À la veille, le roi Salman a licencié le ministre de l'eau et de l'électricité, Abdullah Al-Hussein, car le peuple était en colère vis-à-vis la mesure d'Al-Hussein de couper la subvention de tarif de l'électricité et de l'eau. Le mars dernier, le ministre Al-Hussein a demandé pour que le peuple obtienne la permission d'avoir leur propre puits. Mais cette demande n'a pas été considérée capable de surmonter la crise de l'eau et de l'électricité. Cette étape est effectuée à nouveau après le gouvernement saoudien a coupé les subventions des tarifs d'électricité, d'eau et d'autres services. En tant que substitut, le roi Salman a ordonné au ministre de l'Agriculture Abdel Rahman Al-Fadli comme agissant ministre de l'eau et de l'électricité. Que fait l'Arabie Saoudite à réaliser la vision 2030. Ce pays va vendre 5% d'actions d'entreprise d'État du pétrole, Aramco, au public, qui va donner le fonds d'un montant de 2,5 billions de dollars américains. Cette vente sera un dossier distinct qui a dépassé la vente d'actions de Facebook ou Alibaba. En plus de la vente d'actions, un autre plan et de créer des emplois pour les 6 millions de Saoudiens et d'augmenter le revenu familial à 60%. Dans la vision, il a également révélé un plan des économies allant jusqu'à 30 milliards de dollars en 2020. Avec le fonds de la vente d'actions, une partie sera mise dans la caisse fonds d'investissement de l'État ou d'un fonds de richesse souverain qui capitalisera environ 2,7 billions de dollars. Ce plan n'est pas sans critique. Le Fonds monétaire international a rappelé que ce plan est celui ambitieux qui sera difficile à effectuer et qui va provoquer de divers défis. Au milieu de la crise économique qui a frappé, l'Arabie Saoudite organise le sommet du Conseil de coopération du Golfe. Le président américain Barack Obama a assisté au sommet et a rendu un entretien avec le roi Salman, mais l'ambiance accueillante d'Obama est différente. L'Arabie Saoudite a vu la manœuvre d'Obama en disant que l'Arabie Saoudite et l'Iran devraient devenir bons voisins comme le signal que les États-Unis commencent à approcher l'Iran après accord nucléaire est atteinte. Si vous regardez la tendance du prix du pétrole qui reste bas, l'Arabie Saoudite a bien sûr le droit de décider si le pétrole est devenu le pilier de l'économie ou non. Pour l'Indonésie, le bas prix du pétrole au moins devient une bénédiction parce que le prix des importations de pétrole a chuté. On soutient la mesure de l'Arabie Saoudite à réformer son économie pour maintenir la stabilité dans la région du Moyen-Orient qui est actuellement au niveau le plus bas depuis les questions de sécurité en Syrie, en Irak et au Yémen. Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditrices et auditeurs, la Voix d'Indonésie écoute maintenant l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 27 avril 2016. On va commencer le 27 avril 1960. Le Togo a remporté l'indépendance. Le 27 avril 1960, le Togo, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, a gagné son indépendance. Initialement au 15e siècle, le Togo est colonisé par les Portugais et depuis le 17e au 18e siècle. Le Togo a fait le centre de la traite des esclaves, de sorte que cette zone est connue comme la côte des esclaves. En 1858, l'Allemagne envahit le Togo et lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, en 1914, le Togo a été divisé en deux. La région orientale contrôlée par la France et la Grande-Bretagne a annexé la région occidentale. En 1960, la région du Togo contrôlée par la France a proclamé son indépendance sous le nom de République du Togo. On continue le 27 avril 1961, la Sierra Leone obtient son indépendance. Sierra Leone est un état d'Afrique de l'Ouest et composé initialement de plusieurs petits royaumes en 1460. Le marin portugais Pedro da Cintra découvre cette zone et a donné le nom de Sierra Leone, qui signifie « montagne de lion ». Au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne a occupé la Sierra Leone jusqu'en 1961. Ce pays a obtenu son indépendance du gouvernement colonial britannique. La nation qui vient d'être indépendante est dirigée par Milton Margaret, qui règne avec la même manière que le gouvernement colonial britannique. On termine le 27 avril 1963, la journée de la réinsertion d'Indonésie. La journée de la réinsertion de l'Indonésie est le jour historique pour les éléments du système de justice pénale en Indonésie. À cette date, on a approuvé la conception sur le coaching prisonnier par le système de la réinsertion comme une réalisation de l'idée et la réinsertion lancée par professeur Saharjo. Le professeur Saharjo a déclaré que la tâche du service pénitentiaire, non seulement de punir, mais aussi de renvoyer des personnes condamnées à la communauté. En outre, la mise en œuvre du système de la réinsertion est soutenue par la loi numéro 10 de 1995, concernant le système de la réinsertion. On espère via cette loi, on peut réaliser la vision du système de la réinsertion sur la base de Pancasila. Ces auditeurs, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire, l'édition le 27 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième antenne, pour la rubrique suivante, voici donc la mise au point sur l'environnement. Et pour le titre, l'Indonésie a commémoré la journée de la Terre. Le monde a commémoré la journée de la Terre chaque le 22 avril. En Indonésie, les organismes gouvernementaux et les organisations écologistes ont commémoré cette journée de diverses manières. Mais l'activité qui est faite par beaucoup de personnes est de planter des arbres, comme cela se fait dans de nombreux pays. Le gouvernement, à travers l'Institut indonésien des sciences, LIPI, par exemple, en collaboration avec la Fondation Tarakanita, en conformité avec le thème de la Journée de la Terre 2016, des arbres pour la Terre, a planté 300 arbres rares provenant des zones de Nusa Tenggara. La plantation a été faite au Centre scientifique du parc écologique de Cibinong, Botanic Garden, la résidence de Bogor, l'ouest de Java, samedi le 23 avril. Écoparc de Botanic Garden est une extension des jardins botaniques de Bogor qui ne pouvait pas accueillir les espèces végétales rares qui devraient être sauvées, gérées par l'IPI. Le chef d'administration pour la conservation des plantes du jardin botanique de l'IPI, Aceh Subarna, a affirmé qu'un groupe de plantes à Écoparc est divisé en sept régions d'origine végétale ou écorégions, basées sur les grandes îles de l'Indonésie qui couvrent l'écorégion de Sumatra, l'écorégion de Java-Bali, de Kalimantan, de Sulawesi, des Moluques, de Nusa Tenggara et de la Papouasie. C'est parce que 300 arbres rares proviennent de régions de Nusa Tenggara, la plantation se fait dans l'écorégion de Nusa Tenggara. Parmi ces plantes qui sont bien connues par le public sont en papyrus ou de palme, noix de Kemiri et le mangoustan. La fondation de Tarakanita a choisi cette activité pour susciter le souci du public au sujet de l'environnement, en particulier la propriété et le confort de l'environnement. Un arbre a des millions d'avantages pour la survie de nombreuses créatures, parce que ce sera disponible pour l'air pur en plus de prévenir le réchauffement climatique. Selon le chef de l'administration du Centre de la conservation des plantes du jardin botanique de l'IPI, Aceh Subarna, l'IPI a organisé également le programme des arbres foster. Le concept du programme est chaque individu, groupe ou entreprise peut participer à planter des arbres foster dans le parc écologique de Cibinong, à condition les parties qui voulaient participer à cette activité doivent payer les coûts d'entretien des arbres foster pendant un an. Le coût pour avoir un arbre foster pour individuel ou en écolier d'un montant de 50 000 rupiah par personne et par arbre, alors que le coût pour les petites entreprises de 100 $ par arbre et 1 $ américains par bloc qui contient environ 50 arbres pour les grandes entreprises. L'objectif est d'encourager ceux qui veulent planter à être responsables de leur maintien. Dans la plantation, l'IPI priorise des espèces qui ont la valeur de la conservation ou des plantes rares. Aceh Subarna a ajouté, coïncide avec la Journée de la Terre, Écoparc de l'IPI a invité les gens à se soucier de la préservation de l'environnement. La prise de conscience doit être inculquée tôt, parce que la préservation de l'environnement est une des applications importantes pour l'écologie. Secrétaire, c'était la mise au point sur l'environnement.
Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, est engagé à soutenir le gouvernement indonésien dans l'amélioration de la gestion des forêts dans le pays. Cela a été transmis par le chef de PNUD Indonésie, Christophe Baoué, en marche du lancement des résultats d'évaluation de la gouvernance forestière 2015 mardi à Jakarta. Selon lui, le PNUD collabore avec le gouvernement indonésien dans de nombreux domaines, y compris dans l'analyse des problèmes de gouvernance forestière et d'autres questions liées au changement climatique.
And I think probably I can think about, you know, six areas where UNDP is very actively engaged.
Nous impliquons dans six domaines où PNUD est très activement engagé. Le premier, l'analyse que nous présentons, ce type d'analyse que nous allons continuer à le faire sur la gouvernance forestière et tous les problèmes liés au changement climatique. Le second est le dialogue. Les politiques et les procédures sont très importantes. Le PNUD est un conseiller politique. La recherche que nous faisons est non seulement pour documenter ou produire le rapport, il doit être traduit dans la politique. Le quatrième est le renforcement des institutions. Nous croyons que cette institution est l'épine dorsale de traduire les engagements dans la réalité. Le chef de PNUD Indonésie, Christophe Baoué, encourage les efforts de coordination entre les organismes gouvernementaux pour répondre aux préoccupations environnementales et la gouvernance forestière. En ce qui concerne les efforts d'application de la loi contre les violations de la gouvernance forestière, le PNUD a encouragé le gouvernement indonésien d'adopter une politique multiporte comme une nouvelle stratégie dans le traitement des cas des crimes forestiers en utilisant quelques législations qui sont les plus susceptibles à appliquer. L'Indonésie d'être un modèle pour les pays islamiques, le ministère de la Condition féminine et protection de l'enfance possède la fonction principale d'impliquer des femmes dans les aspects de développement. La ministre de la Condition féminine et protection de l'enfance, Madame Yohana Susana Yembise, dans le débat public intitulé « Les femmes et l'innovation », mardi 26 avril à Jakarta, a déclaré qu'à ce moment, de nombreuses femmes ont des rôles et occupent le siège de la direction à la fois au niveau ministériel, législatif, exécutif et éducatif. La ministre Yohana avait dit qu'il était une indication que la situation des femmes en Indonésie était plus avancée. L'Indonésie a été nommée pour en être un modèle pour d'autres pays, notamment l'État islamique. L'Indonésie a été désignée comme un modèle pour les autres pays. Hillary Clinton, comme par exemple candidat à la présidentielle américaine, a dit aux ambassadeurs, entre autres l'ambassadeur en Afghanistan, à prendre de l'Indonésie. Parce que les femmes en Indonésie déjà avancées aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Afghanistan est venu en Indonésie et assez choqué et a déclaré que l'Indonésie pouvait être un modèle pour d'autres pays musulmans dans le monde. Selon la ministre Yohana Susana Yembise, la désignation de l'Indonésie d'être un modèle parce que l'Indonésie est le plus grand pays musulman avec une grande tolérance où les femmes et les enfants sont devenus partie intégrante du développement national. Les femmes en Indonésie ont aussi la liberté d'exprimer tout ce qui est positif pour le progrès de la nation. En septembre 2015, à l'Assemblée générale de l'ONU, le vice-président indonésien Yusuf Kalla a exprimé son soutien à l'égalité de genre. C'est la preuve de l'engagement du gouvernement dans la réalisation de la participation des femmes dans le développement. Le gouvernement indonésien a exprimé sa préoccupation sur l'essai de missiles d'un sous-marin mené par la République populaire démocratique de Corée le 23 avril 2016, qui a créé des tensions à la fois dans la région et dans le monde. Le ministre indonésien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué mardi que l'action était contraire à l'esprit de l'accord global de libre nucléaire. En outre, il est une violation des obligations de la République populaire démocratique de Corée aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU numéro 1718 2006 et numéro 1874 de 2009 et numéro 2087 de 2013. À cette situation, l'Indonésie a exhorté la République populaire démocratique de Corée de s'abstenir de tout ce de tout l'acte de provocation qui peut affecter la situation et la stabilité. L'Indonésie a appelé les parties concernées à poursuivre les pourparlers de 6 pays pour maintenir la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Auditeurs et auditrices, vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. L'Indonésie et la République populaire de Chine ont tenu un dialogue mardi à Beijing pour discuter de la coopération dans le domaine de la politique, juridique et de la sécurité, ainsi que son impact sur la région. Comme cité par Antara mardi, dans le cinquième dialogue, la délégation indonésienne a été dirigée par le ministre de coordination des politiques juridiques et de sécurité, Luhut Panjaitan, et la délégation chinoise dirigée par un membre du Conseil d'État, Yang Jiechi. La coopération dans le domaine politique, juridique et sécurité entre l'Indonésie et la Chine se déroule bien et plus solide. Dans le domaine juridique, les deux pays ont effectué beaucoup de coopération dans le traitement de la criminalité transnationale comme le trafic de drogue et la cybercriminalité, tandis que dans le domaine de la défense, l'Indonésie et la Chine ont une plus large coopération comme l'échange d'élèves officiers, la formation conjointe, le transfert technologique, le dialogue entre l'armée de terre et la marine. Le vice-recteur de l'Université de Queensland en Australie, Peter Ho, a exprimé sa volonté d'aider l'Institut indonésien des sciences, l'IPI, à renforcer des recherches liées au développement des régions éloignées dans les petites îles, y compris l'île de Dambon et Lombok, et de la résilience des villes de Jakarta, Surabaya et Semarang. On souhaite que la coopération des recherches puisse améliorer la qualité des ressources humaines et des connaissances de la communauté, a déclaré le chef de l'IPI, Iskandar Zulkarnain, et le vice-recteur de l'Université de Queensland en Australie, Peter Ho, dans une conférence de presse conjointe à l'IPI mardi. Le chef de l'IPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré que la coopération a été faite parce que l'IPI et l'Université de Queensland ont la même mission dans la science et l'innovation pour le développement. Notre dernière information pour aujourd'hui, la demande de poissons congelés de la province de Sulawesi du Nord des États-Unis est assez élevée. La livraison est faite maintenant presque tous les mois. Le chef de l'industrie et du commerce de la province de Sulawesi du Nord, Jenny Karau Amanado, a déclaré mardi qu'à la fin de mars 2016, la province, a exporté du poisson congelé aux États-Unis jusqu'à 18,7 tonnes et peut générer des revenus pour le pays atteignant 174 000 dollars américains. Selon Jenny Karau, la plus grande demande de poissons congelés en provenance des pays américains et européens. L'intérêt des pays européens et américains pour les poissons congelés de Sulawesi du Nord sont très élevés et cela doit être bien profité par les exportateurs et les pêcheurs. Le gouvernement, selon Jenny, va faciliter pour que la demande d'exportation de poissons de cette province puisse augmenter et de trouver de nouveaux marchés. Auditeurs et auditrices, c'était les informations de la Voix de l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation, ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition aujourd'hui, je vais vous présenter la réserve naturelle de l'île Kaget, en province du sud de Kalimantan.
<t'->
Indonésie, il y a beaucoup de destinations touristiques. Chacun a son propre charme et son attrait. Comme la province de Kalimantan du Sud, qui a également des destinations touristiques intéressantes. Jusqu'à présent, une destination touristique sur l'île de Bornéo est synonyme de la rivière. Mais cette destination touristique actuelle est différente. Elle est appelée l'île de Kaget. L'île Kaget est située près de la ville de Banjarmasin, Kalimantan du Sud, précisément au milieu de la rivière Barito, sous communauté d'Alalak, la préfecture de Barito, Kuala. Pour se rendre à l'île Kaget de la ville de Banjarmasin, vous pouvez utiliser la route marine à l'aide du bateau rapide qui prendra environ 15 minutes. Cependant, si vous utilisez un bateau en bois traditionnel appelé klotok, il faudra environ 1h30. En fait, l'île Kaget n'est pas un plateau comme en général. Cette île est un delta formé par le limon à l'embouchure de la rivière Barito. Lorsque l'eau de la rivière Barito coule, l'écoulement d'eau apporte des sédiments à cause de l'érosion des bords et du fond de la rivière. Les sédiments entassent ensuite à l'embouchure de la rivière Barito. Peu à peu, une tasse de sédiments a augmenté jusqu'à ce qu'il forme finalement l'île Kaget. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore de données officielles pourquoi l'île est appelée l'île Kaget. Cependant, il y a des opinions qui sont apparues sur le nom de l'île, nommée l'île Kaget parce que chaque personne qui entre sera surprise par les voix bruyantes des habitants de l'île, à savoir des centaines de nasiques sur les arbres denses. Depuis l'an 1976, l'île Kaget est devenue l'un des sites touristiques de réserve naturelle ou l'écotourisme en Indonésie. L'île a été utilisée comme un sanctuaire pour de nombreux animaux qui en font un habitat. Cette réserve naturelle se concentre sur la protection des animaux, y compris les nasiques rares. Les nasiques sont des primates uniques. Ce signe est aussi connu comme le signe aux Pays-Bas, a un grenier et un rousse et abdomen distendu. Sur l'île Kaget, outre les nasiques, il y a d'autres animaux protégés. Les animaux sont divisés en deux espèces, à savoir des espèces de cygnes et d'oiseaux. Les espèces de cygnes sont entre autres des cygnes à longue queue et des langurs, alors que les espèces d'oiseaux, telles que milan sacré, des aigles de mer, perruche à moustache, truchucan et les quigognes. Outre les animaux, l'île est aussi un lieu pour la végétation importante, entre autres les mangroves, rambai, absinthe, pandanus et jonquil. C'est parce que l'île Kaget est une zone de réserve naturelle et l'écotourisme. Ce que vous pouvez voir sur cette île est la beauté naturelle et les animaux rares. En outre, les activités que vous pouvez faire sont seulement de nourrir les animaux et d'observer un groupe de nasiques qui interagissent. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers amis, bonsoir. Retrouvons-nous de nouveau dans l'édition Apprendre l'indonésien. Dans cette édition, cette fois, nous vous présentons une conversation intitulée Memesan Karcis Kereta Api ou en français Réserver un billet de train. Comme toujours, écoutez d'abord les mots et les expressions utilisées dans notre conversation. Membelikan, membelikan, en français, acheter. Karcis, karcis, en français, billet. Naik kereta api, naik kereta api, en français, prendre le train. Naik pesawat terbang, en français, prendre l'avion. Berangkat, berangkat, en français, partir. Tanggal berapa, en français, quelle date. Pulang, kembali, en français, retourner. Minimarket, en français, mini-marché. Dekat, en français, près de. Rumah kamu, en français, chez toi. Membayar, en français, payer. Code booking, en français, code de réservation. Distation, en français, à la gare. Menukar, en français, changer. Tempat duduk, en français, siège. Voici la conversation entre Anna et Nita chez Anna. Anna, saya mau pergi ke Yogyakarta. Je vais aller à Yogyakarta. Apakah kamu bisa membelikan karcis untuk saya? Apakah kamu bisa membelikan karcis untuk saya? Peux-tu acheter un billet pour moi? Nita, kamu mau naik kereta api atau pesawat? Kamu mau naik kereta api atau pesawat? En français, tu veux prendre le train ou l'avion? Kamu mau berangkat kapan? Kamu mau berangkat kapan? En français, quand veux-tu partir? Pulang tanggal berapa? En français, à quelle date tu reviendras? Anna, saya mau berangkat tanggal 25 Oktober. Saya mau berangkat tanggal 25 Oktober. En français, je partirai le 25 octobre. Dan pulang tanggal 30 Oktober 2014. En français, et retournerai le 30 octobre 2014. Nita, mari kita ke minimarket dekat rumah kamu. Mari kita ke minimarket dekat rumah kamu. En français, allons au minimarché près de chez toi. Kita bisa membeli tiket kereta api di sana. Kita bisa membeli tiket kereta api di sana. En français, nous pouvons acheter un billet de train là-bas. Setelah membayar, kita akan mendapatkan kode booking. Setelah membayar, kita akan mendapatkan kode booking. En français, après avoir payé, nous recevrons un code de réservation. Pada hari keberangkatan. Pada hari keberangkatan. Le jour de départ. Di stasiun, kamu bisa menukarkan kode booking itu menjadi tiket. Di stasiun, kamu bisa menukarkan kode booking itu menjadi tiket. En français, à la gare, tu peux échanger le code de réservation contre le billet. Kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak usah khawatir. Ne t'inquiète pas. Dengan kode booking itu, kamu dipastikan sudah bisa berangkat. Dengan kode booking itu, kamu dipastikan sudah bisa berangkat. En français, avec ce code de réservation, tu peux certainement partir. Kamu sudah mendapat tempat duduk. Kamu sudah mendapat tempat duduk. En français, tu as un siège. Anna, mari kita berangkat sekarang. Mari kita berangkat sekarang. En français, partons maintenant. Bonjour ami, c'était la rubrique d'apprendre l'indonésien pour ce soir. Au revoir.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons en rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de musique, édition de vendredi, avec moi, Mohamed Suartono. Et vous pouvez écouter notre émission, nous serons par en courte sur la fréquence 9525 kHz, mais aussi via audio streaming www.voi.co.id ou bien sur votre gadget avec application RRI Play. Et pour ce soir, on vous présente musicien Kenan Nasution. Bon, comme l'ouverture de notre rencontre, écoutez donc une chanson de Kenan Nasution intitulée Nuansa Bening. Bon écoute.
Hamparan laut di
Chers amis, on connaît Kéna Nasution depuis la fondation du groupe Sabda Nada en 1966 avec ses frères et ses amis. Dans ce groupe, Kéna Nasution fait la batterie. Plus tard, ce groupe a changé le nom devenu Gypsy en 1969. Alors, en 1972, ce groupe Gypsy est allé aux États-Unis pour jouer au Resto Ramayana. En 1975, il est rentré en Indonésie et puis fait un projet de collaboration avec chorégraphe Guru Soekarno Putra. Puis, ils ont produit le nom Guru Gypsy. En 1975, Kéna Nasution a aussi fondé le nouveau groupe Badai Band avec Odin Nasution, les autres musiciens comme Krise, Faris Rustamunaf, Yoki Surya Proyogo, Roni Harap et Guru Soekarno Putra. Ce band est spectaculaire, mais sans lancer un album. On peut voir ce grand band avec l'album solo de Krise Sabda Alam, Yoki Suprayogo avec musique Saya adalah Saya. On peut dire aussi que Kéna Nasution a fondé le geng Pegangsaan. Mais en effet, ce groupe a été fondé par Debina Sution. Bon, chers amis, écoutez encore la chanson Di Batas Angan, chanté par Kéna Nasution. Bon écoute.
Luka hatimu bakar pagi tutup malam selalu bagai yang tentang syair kemantan bersahutan selaras penyakit bisa sendiri. I'm
setiap waktu musim berganti selalu terjalin rindu,
selalu terjalin rindu.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.